Nous nous entretenons aujourd'hui avec Marie-Josée Fizet, la directrice de la Fondation du Cégep Édouard Bompetit, mais elle nous parle surtout des projets qui lui ont fait découvrir le monde. On a parlé d'Afrique, mais vous êtes allée aussi en Haïti.
Oui, à deux reprises.
Et en Afrique, à quel endroit vous êtes-vous retrouvée?
J'ai fait l'extrême nord du Cameroun, dans une petite ville qui s'appelle Maroua, mais qui est quand même une assez grande ville. Par la suite, je suis partie à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je le dis toujours avec un sourire parce que j'ai adoré le Burkina Faso. Et par la suite, je suis partie avec Médecins sans frontières au Niger, où là, c'est une expérience complètement différente.
Qu'est-ce que vous alliez faire précisément en Afrique?
J'ai jamais fait la même chose. Au départ, j'allais au Cameroun pour la scolarisation des jeunes filles. Par la suite, je suis partie au Burkina Faso en gestion commerciale de l'eau. Et
vous retrouvez vos origines parce que vous aviez des parents commerçants.
Oui, exactement. C'est vrai. J'avais pas fait le lien avant, mais effectivement. Ensuite, je me suis ramassée au Niger. J'étais, pour Médecins sans frontières, coordonnatrice terrain de ressources financières et humaines.
Est-ce que c'est difficile quand on se retrouve sur le terrain? Parce que vous avez dit tantôt, lors de la première partie de l'émission, qu'à un moment donné, vous avez déchanté.
Ah oui. Ah oui, c'est difficile. C'est difficile parce que...
Qu'est-ce qui est difficile?
Ben parce qu'on est confronté à une réalité, on n'est pas dans le même 2010 ou dans le même 2011 ou le même 2012 que celui auquel on est habitué. Je me rappelle, il m'arrivait d'écouter la radio de Montréal et d'entendre la circulation et de sortir dehors puis de voir un troupeau de chameaux passer. Alors, de voir qu'il faut se battre pour la scolarisation des jeunes filles. On parle des jeunes filles, mais on parle aussi des jeunes garçons qui ne vont pas à l'école parce qu'il faut qu'ils gardent le bétail. C'est des choses avec lesquelles on ne peut pas fonctionner.
C'est un choc.
La première fois que j'ai rencontré une femme excisée pour moi et après quelques mois, c'était ma voisine et elle s'est ouverte à moi. Et pour elle, c'était une chose tout à fait normale. Au moment d'ailleurs où elle me l'a dit, je ne l'ai pas jugée. Ce que je n'aurais pas fait à mon arrivée. Je le sais que je ne l'aurais pas fait, que je l'aurais jugée. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, mais on est constamment confronté. Moi, je suis arrivée là, blanche. Et le choc, on était très peu de blancs dans Maroua aussi. Une femme, je vivais seule, j'avais refusé le gardien pour vivre avec les gens, parce que je me disais, si j'ai un gardien, j'ai une barrière. Donc, pour eux aussi, il y avait cette espèce de... Qui était-elle? Et pour les connaître, bien, il faut que tu t'approches.
On est confronté probablement, et on pourra y revenir, à ses propres valeurs.
Constamment.
Vous nous proposez, là, c'est intéressant, de la musique cubaine.
Oui.
Compay Segundo, pourquoi?
Premièrement, j'adore Cuba. Mes premiers voyages vraiment d'exploration, là, je parle vraiment de voyage d'exploration, c'est Cuba. J'ai visité des écoles, j'ai visité la campagne, j'ai fait le Pinar del Rio. Et Cuba est, à mon avis, on pourra dire ce qu'on veut, mais une réussite en Amérique centrale. Et j'ai voyagé en Amérique centrale. C'est un peuple qui est éduqué, qui a une musique extraordinaire et qui a un bagage. Et Chan Chan, pour moi, lorsque je me promène seule dans Cuba, c'est la musique que j'entends partout. Et le Buena Vista Social Club, c'est l'histoire de la révolution jusqu'à peu près maintenant, même s'ils sont tous décédés.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena,
como un sacudí el quibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compay, ataque.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Le guitariste et chanteur cubain Compay Segundo, de son vrai nom Maximo Francisco Repilado Munoz, qui est décédé d'ailleurs à l'âge de 95 ans en 2003, le 14 juillet. Bien connu dans son pays, c'est Lia. En fait, c'est sa sortie en 1997 de l'album Buena Vista Social Club qui va le révéler au monde entier. Une personnalité attachante, un talent très grand. Et c'est Marie-Josée Fizet qui nous proposait cette chanson. Donc, on est passé de l'Afrique à Cuba. On va faire un autre saut, pas tellement loin de Cuba. On va aller en Haïti. Parce que là aussi, vous vous êtes retrouvés, encore une fois, dans un projet...
À deux reprises.
Dans un projet d'entraide.
Oui, dans un projet d'entraide. Le premier, c'est à Marchand-Dessalines avec la fondation Paul Gérin-Lajoie. Vraiment un très, très beau projet. Souvent, d'ailleurs, les projets de la fondation Paul Gérin-Lajoie sont très petits, ce qui fait qu'ils sont concrets et qu'ils perdurent dans le temps. Et on est allé monter avec les gens de là-bas des coopératives scolaires. Et je dois vous dire qu'elles fonctionnent encore et que c'est en expansion dans l'île, en plus. C'est un projet qui fonctionne.
Un peuple éprouvé. On connaît oui. Ce qu'ils ont eu. Bon, les tempêtes tropicales, le tremblement de terre, la pauvreté, l'absence... de richesses naturelles qui fait en sorte que les pays riches négligent souvent de jeter un regard sur un tel pays.
En fait, c'est plein de richesses naturelles. Vraiment, c'est un pays où on peut cultiver de tout. La mer est extraordinaire. Dans le nord du pays, il y a des mines aussi. Mais je pense que tout ce qui se passe fait en sorte que les gens détournent les yeux. Des fois, il faut se demander à qui ça profite. Et pour y avoir vécu, c'est souvent la question que j'ai.
Mm-hmm.
À qui ça profite de laisser un peuple comme celui-là à 110 000 nautiques de Miami?
Pourtant, lorsqu'il y a eu ce fameux tremblement de terre, on a vu le monde entier, chinois comme américain, débarquer à Haïti, se donner la main pour dire « on va rebâtir ce pays ». Encore une fois, un rêve... qui ne s'est pas vraiment concrétisé comme l'espoir qu'il laissait supposer.
Non, je vais vous corriger. Pour avoir vécu en 2011 et en 2012 en Haïti, les projets de reconstruction ne sont pas à l'américaine comme ceux qu'on connaît, mais les projets de reconstruction, ils sont là et ils sont bien palpables. Cependant, il faut voir comment est fait Port-au-Prince. Et je trouve qu'on on oublie cet aspect-là. Des fois, on oublie que la Louisiane, quand est arrivée Katrina, ne s'est rebâtie qu'en 6 ans. Et on demande à un pays qui n'avait pas de structure, qui n'a pas de place, on fait quoi avec le ciment? Personne ne se pose ces questions-là. Ouais. Parce que tout est fait en ciment. Il faut savoir qu'à Port-au-Prince, il y a 4 rues. On le met où? On le prend où? Donc, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Comme il n'y a jamais eu d'éducation puis qu'il n'y a pas d'expertise non plus, il faut aller la chercher à droite et à gauche. Et souvent, on se fie un peu à n'importe qui. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui en profitent. Par contre, moi, j'ai vu des enfants sortir des camps habillés de façon impeccable, des blouses d'une blancheur extraordinaire, des petites filles avec des boucles, des mamans qui n'ont rien qui vont les reconduire à l'école pour s'assurer qu'ils aient un futur. Alors moi, je crois en Haïti, mais il va falloir à un moment donné qu'Haïti croit en elle aussi.
Et le titre de la prochaine chanson, même si c'est une chanson américaine, c'est un titre d'espoir, Heal the World.
Heal the World.
Michael Jackson, et c'est votre choix, on y reviendra après l'écoute.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and the place is much brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
You and for me and the entire human race.
Heal the World, c'est la chanson que je chantais lorsque je suis arrivée à Maroua. En fait, non, à Yaoundé. J'étais à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bon, capitale, c'est un grand mot. Où vraiment, on parlait de choc culturel. J'avais vu la pauvreté dans ma vie, mais je ne l'avais jamais vue de cette façon-là. Et c'est ce qui me permettait de dire, j'ai pris la bonne décision de m'en venir ici. Je chantais dans ma tête, Heal the World. Je me disais, oui, on va réussir. Je pensais à Michael Jackson, on pourra dire ce qu'on en veut. Moi, je crois que malgré
tout...
C'est une belle chanson et c'est une chanson qui fait confiance en l'humanité. Et je me disais, je suis ici parce que j'ai confiance en l'humanité.
Vous êtes une optimiste?
Oui, profondément.
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 Vous croyez donc en la capacité de l'être humain de pouvoir surmonter toutes les difficultés qui peuvent se présenter?
Il n'y a pas de montagne insurmontable, mais il y a différents chemins pour y arriver.
Donc, la pensée positive vous habite?
Toujours. Je me force même pas. C'est quelque chose que j'ai inné en moi. Je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Je me rappelle, j'étais au Niger, il y avait une armoire qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir, puis je disais toujours à Sidi, mon bras droit, Sidi, tu vois cette armoire-là, tu sais pourquoi elle est à clé? Parce qu'elle est remplie de solutions. Quand on aura un problème, on l'ouvrira. C'est toujours, il y a toujours une solution. Elle prend 24 heures à arriver, une semaine, mais elle est toujours là.
Vous y croyez profondément?
Profondément, ça fait partie de moi.
Et quand on regarde le fil conducteur de votre vie, malgré votre jeune âge, ça a toujours été présent. Donc, ces études, par exemple, oui. En sciences politiques, du coup, vous avez été enseignante également.
Aussi, j'ai fait un bac aussi en éducation.
L'enseignement des langues?
Oui.
Donc, quand on enseigne les langues, c'est qu'on veut une plus grande ouverture. On veut pouvoir communiquer avec le plus grand nombre de personnes possibles. Cependant, peut-être reprendre le latin parce que vous avez été professeur de latin.
J'ai été professeur de latin, malheureusement, pas longtemps, mais j'ai bien aimé ça. Mais j'en avais fait aussi avec les religieuses et je me rappelle... Vous savez, quand on a 13-14 ans, puis qu'on se fait dire pendant deux ans qu'on va prendre le latin, on ne la trouve pas très, très drôle. Puis nous disait, ça va vous aider.
Tout à fait.
Ça va vous donner une culture que personne d'autre aura. Et elles avaient raison. Là oui. Encore, elles avaient raison.
Oui, mais ne serait-ce que de connaître les racines des mots que l'on utilise.
Voilà.
La question, parce que quand on fait des thèmes ou des versions latines, ça prend une capacité d'analyse. Pour en avoir fait aussi dans mon jeune temps,
voilà.
On apprenait effectivement à regarder, à analyser un texte profondément. Ça nous permet peut-être aussi de mieux comprendre le monde dans lequel on se retrouve maintenant.
Peut-être. Ouais.
Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de l'enseignement? Ben, on va écouter la prochaine chanson, puis vous pourrez peut-être répondre à cette question. Présentez-la nous donc.
Hasta siempre la revolución. C'est une chanson qui est cubaine, mais pourquoi j'ai choisi la version de Nathalie Cardone? C'est qu'il faut voir le vidéo. Nathalie Cardone se prête en révolutionnaire. Et elle s'en va avec son bébé à un moment donné, qu'elle allait aussi. Et elle se promène dans les champs cubains. On imagine que c'est l'époque de la Révolution et elle traîne et elle draine avec elle toutes les femmes. Et moi, cette version-là me remplit de joie de voir ces femmes-là qui se prennent en main parce que j'en ai vu beaucoup en Haïti et en Afrique. Mm-hmm. Les révolutions commencent souvent par les femmes.
Oui, tout à fait. Cette chanson, elle est de Carlas Puebla. Elle est en hommage à Che Guevara.
Che Guevara.
Cette chanson connaît dès sa sortie un énorme succès avec près d'un million de ventes. Ça a peut-être été, parce que c'est une comédienne aussi, Nathalie Cardone, ça a probablement été le seul succès. Elle a enregistré d'autres chansons.
C'est le seul succès, je crois.
Mais c'est le seul grand succès qu'elle a connu. Ah, oui. Donc, on va écouter Hasta Siempre.
Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera. presa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Quand je suis allée à Santa Clara, la première chose que je voulais aller voir, c'était le mausolée de Che Guevara. Et je me rappelle d'être arrivée dans cet endroit-là, d'y être allée même à deux reprises, et d'avoir senti l'aura qu'il dégageait aussi beaucoup, cet homme-là, d'être mort de cette façon-là en Bolivie avec tous ses compagnons qui étaient là. Pour moi, ça reste un grand héros et j'aime bien la contestation qu'il y a autour de lui.
Che Guevara, qui lui aussi, à sa façon, souhaitait redonner à son peuple la capacité de s'instruire, de pouvoir détenir les ficelles de l'économie. Évidemment, on connaît la fin tragique du personnage. Éducation, le temps file trop rapidement. Je vous ai posé la question sur l'éducation, mais c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine. Et là, on va pouvoir parler plus largement de votre expérience en éducation comme enseignante et aussi des projets de façon concrète, ce qu'il en reste et quels sont vos projets à vous. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce premier entretien. Ça passe trop rapidement quand on est...
Effectivement, je n'en reviens pas que ce soit déjà fini. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
On va se quitter sur une belle, belle voix. C'est celle de Hayley Westenra. C'est une jeune Néo-Zélandaise qui a vu sa carrière internationale démarrer en 2003 avec un album intitulé Pure. Chanteuse engagée très activement pour les plus démunis. Elle a rejoint, entre autres, l'UNICEF en 2003. Très engagée, elle aussi. Elle était alors âgée de 16 ans, devenant la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF. Elle interprète Benedictus, qui sera notre thème de sortie. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté, Armand Dubois à l'animation et la réalisation, qui vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une bonne semaine à notre antenne. Et revenez-nous la semaine prochaine, où on va pouvoir retrouver Marie-Josée Fizet. À bientôt. Plaisir, au revoir.